Merci Andou, bonjour à tous. Bonjour, on a un nouveau micro, super. Alors, on n'est pas vraiment en avril, hein, on est le 31 mars, je pensais qu'on était le 1er avril. Pas pour moi l'idée de vous faire un poisson, évidemment un ictus d'avril. Mais du coup, je vais aborder la nouvelle doctrine du mois. On va anticiper un petit peu, on va déjà démarrer avec la doctrine du mois d'avril, qu'on va aborder du coup dans les prochains dimanches. On va parler d'angéologie. Waouh! Est-ce que vous avez une petite idée de ce que ça veut dire? C'est la doctrine? Ouais, ça va. D'où le nom. Alors, s'il y a des sujets qui ont été beaucoup, beaucoup détournés de leur réalité biblique, l'angéologie, la doctrine des anges, voilà, c'est vraiment un sujet où il y a eu beaucoup, beaucoup de dérives. Si vous allez parfois dans des librairies, vous allez dans le rayon spiritualité, qui est en général lié avec religion, ésotérisme, une sorte de vide poche, fourre-tout, on met tout dedans. Et alors là, des livres sur les anges, vous allez en trouver, mes amis, hélas, beaucoup. J'étais hier sur le site Amazon, vous savez, la plus grande librairie du monde. J'ai tapé « ange » au pluriel, pour éviter les prénoms, et j'ai juste choisi « livre ». Vous savez combien de références sur le site en France? Plus de 10 000. Il y a plus de 10 000 livres sur les anges sur le site Amazon. Voilà. Et je n'ai aucun doute que la plupart d'entre eux n'étaient pas du tout inspirés de la Bible. Très certainement. Alors, pour démarrer cette nouvelle doctrine, j'aimerais qu'on regarde ensemble ce que la Bible dit sur les anges. Deux erreurs aussi à éviter les concernant. Et puis ensuite, on va voir une rencontre surprenante dans le livre de la Genèse entre Abraham et un groupe de trois mystérieux visiteurs. Je ne sais pas si l'épisode vous rappelle quelque chose. Alors, ce que la Bible en dit déjà. Déjà, la Bible parle beaucoup des anges. Beaucoup. Ce n'est pas un sujet qui n'est pas biblique, au contraire. La Bible mentionne 283 fois le mot « ange ». 108 fois dans l'Ancien Testament, 175 dans le Nouveau. Voilà, c'est très très présent dans la Bible. Le mot « ange » vient de l'hébreu « malak » qui signifie « envoyé » ou « messager ». Voilà, c'est vraiment l'idée qu'on a des anges. Hein, chaque fois qu'ils interviennent, en général, c'est que soit ils ont un message, soit ils interviennent dans une circonstance exceptionnelle pour sauver. Qu'est-ce qu'on peut dire sur eux? Regardez avec moi dans Psaume 148, versets 1 à 5. Que si on s'intéresse à ces littératures extra-bibliques, on va voir plein de choses. Mais plein de choses complètement fausses. Regardez ce que dit la Bible. Psaume 148, à partir du verset 1. Louez l'Éternel. Louez l'Éternel du haut des cieux. Louez-le dans les lieux élevés. Louez-le. Vous tous ces anges. C'est pas vous, hein. C'est les anges. Louez-le, vous toutes ces armées. Louez-le, soleil et lune, louez-le, vous toutes, étoiles lumineuses. Louez-le, cieux des cieux, et vous, ô qui êtes au-dessus des cieux, qui loue le nom de l'Éternel, car il a commandé et ils ont été créés. Donc ici, on a la création, il y a les étoiles, le soleil, la lune, etc. Et puis dedans, il y a les anges. C'est bien Dieu qui les a créés, ce ne sont pas des créatures extraordinaires ou je ne sais quoi qui seraient sorties de nulle part. Ils sont dans le plan de Dieu. Dieu les a créés. C'est important. Il les a créés à quel moment? La Bible le dit. Job 38, verset 47. Le livre de Job, ça commence par un conseil assez intéressant, le conseil de Dieu. Puis il y a Satan qui est là. Peut-être qu'on y viendra dans les prochains dimanches, je ne sais pas. Je laisse Alain et Andou peut-être en parler. Psaume 148, Job, pardon. Job 38, 47, excusez-moi. Hein? C'est pas 47? Alors, attends. Je le lis. Où étais-tu quand j'ai fondé la terre? Déclare-le, puisque tu es si intelligent. Qui a fixé ces dimensions? Tu le sais, n'est-ce pas? Ou qui a déplié le ruban à mesurer sur elle? Sur quoi ces bases reposent-elles? Ou qui en a posé la pierre angulaire alors que les étoiles du matin éclataient ensemble en chant d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie? Je ne sais pas si quelqu'un a trouvé le verset. C'était 4, pardon. 38, verset 4. Ça devait être 4 à 7, alors du coup j'ai oublié peut-être de tirer entre les deux. Ça parle, c'est trop fort le micro? Non, ça va? Ok, je me recule un peu. Voilà, voilà, c'était Job 38, Job 38, versets 4 à 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Dis-le si tu as de l'intelligence. Qui en a fixé les dimensions? Le sais-tu? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Sur quoi ses bases sont-elles appuyées? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Alors que les étoiles du matin éclataient en chants d'allégresse et que tous les fils de Dieu poussaient des cris de joie. Voilà, donc on sait déjà, on a une petite idée, ils ont été créés avant la création du monde, avant la terre, etc. Du moins, avant la création de la terre. Quand Dieu crée le monde, la terre et toutes ses merveilles, voilà, les fils de Dieu étaient là en train d'acclamer et de pousser des cris de joie, ils étaient déjà là. Alors on sait que c'est Dieu qui les a créés, on voit à quel moment il les a créés. Regardons à présent le but. Dans quel but ont été créés les anges? Est-ce qu'ils ont une mission, les anges? Oui, ils ont une mission qu'on trouve dans Hébreux chapitre 1, verset 14. Ça parle des anges. Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Voilà le rôle des anges. Ce sont des esprits au service de Dieu. Donc ils ne sont pas indépendants en profession libérale, ils sont au service du Seigneur. Pourquoi? Pour exercer un ministère. Ah, ils sont au service du Seigneur et ils ont une mission. Pour qui? Eh bien, en faveur de ceux qui doivent hériter du salut. Et j'espère que voilà, vous faites partie de ceux qui ont hérité du salut et que vous faites partie des personnes pour lesquelles les anges ont reçu ce ministère tout particulier. La mission est très claire, hein, très très définie. Hein. Alors les anges, voilà, ce sont donc des êtres célestes créés par Dieu avec une mission au service du Seigneur en faveur des croyants. Alors, il y a deux pièges à éviter les concernant. Et ça, c'est les dérives qu'on voit dans beaucoup de ces ouvrages ou dans d'autres églises. Et c'est la Bible qui nous donne l'explication. Tout d'abord, on ne doit pas adorer les anges. Il y a beaucoup de livres sur l'adoration des anges, etc., etc. Et vous voyez, dans certaines églises, il y a des représentations où les gens vont adorer ces statues-là. Regardez avec moi dans Apocalypse, au chapitre 22, versets 8 à 9. C'est l'apôtre Jean qui a cette révélation extraordinaire. Et il y a un ange qui va lui montrer justement l'épouse de Christ, la Jérusalem céleste qui vient. Et Jean dit, c'est moi, Jean, qui ai entendu et vu ces choses. Et quand j'eus entendu et vu, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères les prophètes et de ceux qui gardent les paroles de ce livre. Adore Dieu. Adore Dieu. Voilà ce que lui dit l'ange. L'ange, il dit, non, moi je suis compagnon de service. Il ne faut pas m'adorer, c'est adore Dieu. Voilà. Dieu, c'est le seul qui mérite d'être adoré, mes amis. Les anges sont des créatures célestes, merveilleuses, très puissantes, on le verra dans les prochains dimanches, avec des missions toutes particulières. Mais à chaque fois qu'il y a cet épisode-là, les anges disent toujours, non, ne m'adore pas moi. Et là, l'ange précise, adore Dieu. On ne doit pas les adorer. Et on ne doit pas non plus les prier. On pourrait les adorer, les vénérer, mais on pourrait aussi les prier. Et ça, l'Éternel avait prévenu les hommes depuis bien longtemps. Il avait déjà prévenu cet écart-là. Regardez dans Exode, au chapitre 1, versets 4 et 5. Exode 20, chapitre 4 et 5. Le Seigneur avait dit, tu ne te feras pas de sculpture d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, tu ne les serviras pas, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent. Tu vas avancer le verset suivant. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Donc le Seigneur avait prévenu en disant, pas de représentation, pas d'image de ce qui est dans le ciel, sur la terre. Ça inclut les anges aussi. Et parfois on va visiter des très jolis édifices religieux où on trouve Michel-Ange a fait des œuvres magnifiques, mais voilà. Nous ne devons donc ni prier, ni adorer les anges. Voilà. Nos prières et notre adoration doivent se tourner vers Dieu seul. Alors, j'aimerais aussi voir un passage avec vous de la Bible qui a souvent été mal interprété. On y voit des anges. C'est dans Genèse chapitre 6. Alors, on l'a vu l'autre jour avec la réunion de couple, mais comme vous n'étiez pas là pour certains d'entre vous, je me suis dit que c'était peut-être intéressant de revenir dessus. Chapitre 6, versets 1 à 15. On va lire ce chapitre et puis après, on va voir ce qu'il dit précisément. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Voilà, etc. Alors, quand on lit ce passage un peu vite, qu'est-ce qu'on peut penser ? Ben on se dit, il y a des anges qui sont venus, ils ont eu des unions avec des femmes, et ça a donné les géants de l'Antiquité. Si on le lit vite, on se dit, tiens, c'est pas du tout ce que dit le texte. Hein. Si vous aviez cette lecture du texte, on va bien regarder, c'est pas du tout ce qui est dit. Hein. Regardez. Chapitre, verset 3. Le reproche, il est fait à qui, là ? Aux fils de Dieu ou aux filles des hommes ? C'est aux fils de Dieu. C'est eux qui sont... Le reproche est fait qu'ils se soient mariés avec les filles des hommes. L'Éternel dit « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair. » Il fait des reproches à qui, là ? À des hommes, pas à des anges. C'est pas des anges. Hein. L'homme n'est que chair. Il a vu que les filles étaient belles. Donc, c'est pas des anges, là. C'est bien des hommes. Et verset 4. Ce passage-là ne dit pas du tout que de l'union est née des créatures extraordinaires. Regardez. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que les fils des hommes furent venus vers les fils de Dieu furent venus vers les fils des hommes. Donc, il y avait des géants à cette époque-là, et il y en a encore eu après cette union-là. Donc, avant, il y avait déjà ces géants. Donc, les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après qu'elle leur eut donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là. Il en fut de même après que ça. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. Les héros, ce n'est pas les descendants de ces unions-là. Ils étaient déjà là avant, hein, donc ça n'a rien à voir. Les fils de Dieu ici ne sont pas des anges. Ce sont deux. Il y a les fils de Dieu, c'est ceux qui étaient normalement consacrés, qui se donnaient au Seigneur. Hein, une personne qu'on pourrait dire aujourd'hui les chrétiens, les croyants en quelque sorte. Hein. C'était ceux qui étaient consacrés au Seigneur. Et puis ils ont vu les filles des hommes, bah, qu'elles n'étaient pas consacrées, et puis ils se sont dit, bah tiens, elles sont très belles. Et on reverra ensuite, on ne va pas le voir, mais si vous connaissez l'histoire d'Israël, combien de fois le peuple israélite s'est marié avec des cananéennes, des étrangères, et toutes les conséquences qu'il y a pu avoir après. On retrouve ici la même idée. Alors pour nous chrétiens, ça veut dire aussi, attention, de ne pas regarder ce qui est beau d'apparence. Attention, il n'y a pas que la vilterie ici, il y a aussi le côté le monde qui brille, ses attraits, etc. Ça pourrait être pour les chrétiens aussi, les fils de Dieu en quelque sorte. L'attirance pour ce monde qui est très désirable, hein, et la publicité nous vend très bien. Donc ça pourrait être aussi une leçon pour nous en disant attention à nos regards. Et puis pour ceux qui sont célibataires aussi, ça pourrait être aussi une exhortation en disant attention, la lumière ne se mêle pas avec les ténèbres. Donc restez bien dans un mariage chrétien. Choisissez un conjoint, une conjointe consacrée à Dieu. Alors ça, c'est un passage où ce ne sont pas des anges qui apparaissent. Mais il y a tellement de passages où il y a des gens, anges qui font leur apparition. C'est ce qu'on va regarder avec cette mystérieuse visite qui est faite à Abraham. Alors, regardez avec moi au chapitre 18 de la Genèse. Chapitre 18, versets 1 à 16. Ça se passe aux chaînes de Mamré. Alors Mamré, bon, qui est capable de dire où se trouve Mamré en Israël ? Okay. Alors Mamré, c'est situé à peu près à 3 km d'Hébron. voilà, pour situer, parce qu'Hébron, c'est une ville de Cisjordanie qui est très connue aujourd'hui. Il y a souvent des émeutes là-bas, c'est une ville palestinienne. Il y a des colonies juives qui ça crée des tensions. Donc Mamré, c'est 3 km d'Hébron. Hébron, c'est une ville importante parce que c'est là que va mourir Sarah. Voilà. L'épouse d'Abraham qu'on va voir ici va mourir à quelques kilomètres d'où elle sera enterrée. C'est là aussi où sera enterré Abraham et sa descendance. Il y a aujourd'hui à Hébron ce que la tradition indique comme le tombeau des patriarches avec Abraham, Isaac, Jacob et leurs épouses. Et c'est aussi une ville qui est importante. Il y a un roi qui s'est fait couronner à Hébron. Vous savez qui c'est ? David. David se fera couronner dans cette ville et il choisira cette ville comme capitale avant qu'il prenne Jérusalem et qu'il transfère la royauté dans cette ville. Alors, donc, Mamré, c'est un emplacement dans le désert, hein, a priori sans intérêt, mais il va se passer beaucoup de choses par la suite de l'histoire dans les environs. Et l'Éternel lui apparaît donc parmi les chênes de Mamré, comme il était assis, donc Abraham, à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Abraham leva les yeux et regarda, et voici, 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, et se prosterna à terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur. Après quoi, vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, « Vite, 3 mesures de fleurs de farine, pétris et fais des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté, sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Et il répondit, « Elle est là, dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, ils avaient à peu près 90 ans à l'époque, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir 2 enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs ? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? N'y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi. » À cette même époque, et Sarah aura un fils. Sarah mentit en disant « Je n'ai pas ri », car elle eut peur. Mais il dit au contraire « Tu as ri ». Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Et si tu veux prendre Genèse chapitre 19, verset 1. Donc l'Éternel va rester avec Abraham. Et ensuite on voit les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Alors ici, Genèse 18, on a 3 hommes au tout début. Et 3 hommes, le mot hébreu c'est Enosh, qui veut dire homme mortel. Donc ils ont bien l'apparence d'hommes mortels. Ils ne sont pas en apparence, ils ne ressemblent pas à des anges, avec tout ce qu'on peut imaginer autour. Quel est le contexte de cette visite ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire là, ces 3 hommes ? Ben regardez les versets de chapitre 18, versets 20 et 21. L'Éternel dit, c'est juste après, hein, quand ils vont se lever pour partir vers Sodome et Gomorre, et donc Abraham va rester avec l'Éternel, et l'Éternel dit, le crime contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre, et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Si l'Éternel descend en personne, mes amis, c'est que la situation était très grave, très très grave, pour justifier que l'Éternel lui-même dise « Je vais descendre pour voir si c'est vrai ». La situation était très très grave. Quel était le péché de Sodome ? Alors, évidemment, l'homosexualité, la violence, ça bien entendu, mais c'est pas tout. Regardez avec moi dans Ézéchiel chapitre 16, versets 49 et 50. Quand on pense à Sodome, évidemment, on pense homosexualité et violence sexuelle, mais si on connaît l'histoire. Voici quel a été le crime de Sodome, ta sœur. Elle avait de l'orgueil. Elle vivait dans l'abondance et dans une insouciante sécurité, elle et ses filles, et elle ne soutenait pas la main du malheureux et de l'indigent. Donc qu'est-ce qui lui est reporté ? Voilà, elles sont devenues hautaines, elles ont commis des abominations devant moi, je les ai fait disparaître quand j'ai vu cela. On revient à la 49. Voilà, en plus des péchés qu'on connaît pour Sodome, il y a deux autres péchés là. Il y a l'orgueil et le fait aussi qu'ils n'ont pas soutenu la main du malheureux et de l'indigent. Il y a ce côté aussi, manque d'hospitalité, manque de générosité. C'est aussi un reproche qui leur a été fait. Mais la faute donc était suffisamment grande pour que l'Éternel lui-même dit « Je vais descendre et voir si tout ce qu'on m'a dit est vrai. » Alors, trois hommes en apparence, Énoch, donc des hommes mortels. Pourtant, tout d'abord, on sait qu'il y a un personnage très important qu'on vient de dire, c'est l'Éternel. C'est bien lui qui est là, ça ne fait aucun doute. Son nom est mentionné partout dans le chapitre. C'est bien lui. Regardez, on revient sur le verset 1 de 18. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. L'Éternel lui apparut. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux, regardait. Voici, trois hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, depuis l'entrée de sa tente, se prosterna à terre. Quand même, notion d'adoration. Verset 3, pardon. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de tes serviteurs. Donc, il y a l'Éternel, et à côté, donc, il y a, on le voit, c'est bien mentionné au chapitre 19, verset 1, les deux anges arrivèrent à Sodome. Donc, ils sont bien, il est bien en compagnie de deux anges. La Bible dit de ne pas oublier l'hospitalité, car en l'exerçant, certains, sans le savoir, ont logé des anges. Et Abraham, je crois qu'il le savait, hein. Enfin, la façon dont il accueille les visiteurs, ou alors il a un sens très développé d'hospitalité. En tout cas, il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. On ne sait pas, on ne peut pas dire s'il les a reconnus. Mais enfin, en tout cas, ensuite, dans la conversation, Abraham va négocier en disant, s'il y a 50 justes à Sodome, est-ce que toi, qui juges le monde, tu jugerais aussi les justes et les injustes? S'il y en a 40, s'il y en a 30? Donc après, il va bien savoir, bien sûr, que c'est l'Éternel. Lot, c'est pas forcément le cas. Lui, on est pas, c'est un peu moins certain. Chapitre 19, verset 1, si tu veux revenir, Samuel. Voilà, quand Lot, il les voit, pareil, il a cette même attitude. Il se lève pour aller au-devant d'eux, se prosterner à la face contre terre. Mais si on lit la suite du chapitre, on n'est pas certain qu'il ait bien reconnu que ce soit des anges, quand même. C'est plus subtil. Alors, l'Éternel et deux anges. Donc, ils sont... 3, ça fait penser à quoi ?
La Trinité.
La Trinité. Alors, c'est difficile à affirmer que c'est bien la Trinité qui est présente ici. En tout cas, l'Éternel arrive avec deux compagnons, on va dire. Ils sont trois Trinités. Alors, c'est difficile à affirmer. Il y a certains passages qui pourraient le laisser penser. Donc, ils sont trois, mais on dirait parfois qu'ils sont un. Regardez, chapitre 18, verset 3. Reviens à partir du verset 1. Je suis désolé, je répète beaucoup. L'Éternel lui apparut comme il était assis pendant la chaleur du jour. Verset 2. Il leva les yeux, voici trois hommes. Verset suivant. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Ah, il ne parle plus qu'à un seul. Il n'y en a plus qu'un, dit peut-être. Ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. C'est un peu étonnant cette partie de ils sont trois. Alors, ou Abraham parle à un seul parce qu'il a reconnu que c'est l'Éternel et il parle qu'à lui en priorité. Ou alors il y a une espèce de confusion entre les trois personnes, il ne serait plus qu'un. Peut-être que voilà, c'est peut-être un début de compréhension. Ensuite, un autre détail, c'est qu'ils sont trois, mais on a l'impression qu'ils disent la même chose. Regarde dans verset 10 à 14. Samuel, si tu veux bien. L'un d'entre eux, c'est pas l'Éternel, hein, c'est l'un d'entre eux, qui dit, je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et verset 14. Reviens au verset 13. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri? Est-ce vraiment impossible qu'elle ait un enfant? Verset 14. N'est-il rien qui soit étonnant de la part d'Éternel? Autant fixer, je reviendrai vers toi. Donc au départ, c'est l'un d'entre eux, on a l'impression que ce n'est pas le personnage le plus important. Et le verset qui suit, presque, 14, c'est l'Éternel qui dit « Je reviendrai ». Donc on a l'impression qu'aussi les trois parlent d'une même voix et qu'il y a un peu confusion entre les trois personnes. Quoi qu'il en soit, on ne peut pas affirmer que ce soit la Trinité, quoi qu'il en soit, l'Éternel ne va pas accompagner les deux anges à Sodome. L'Éternel ne va pas y aller. Il va rester ici, du moins après il va pas demeurer trop longtemps, mais lui n'ira pas à Sodome. L'Éternel ne peut pas demeurer en présence du péché. Voilà. Il y a trop de péchés, il y a un péché énorme à Sodome. L'Éternel ne peut pas être en face du péché, il est trop saint, il est trois fois saint. Il ne peut pas être en présence du péché. C'est les deux anges qui vont aller traiter le problème. C'est eux qui vont régler le problème de Sodome. Ce qui pourrait peut-être confirmer la thèse de la Trinité, parce que qui va régler le problème définitivement du péché dans le monde ? C'est Christ qui va venir sur terre et qui va régler ce problème définitivement. Quand il va venir se faire homme et qui va mourir sur la croix, il va donner sa vie en rançon définitive pour le péché de tous les hommes. Après, ce sera pour ceux qui croiront en lui, ce don gratuit. Mais au départ, c'est pour tous les hommes, parce que Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et puis à côté, il aura le compagnon, on va dire le Saint-Esprit, depuis que Christ est parti, l'œuvre se poursuit d'une certaine façon par le Saint-Esprit. Donc ce sont bien deux autres personnes, deux autres attraits du Seigneur qui viennent régler le problème sur terre, du péché. Donc peut-être que ça peut nous redonner encore l'image de la Trinité, même si c'est pas facile de le confirmer. À Sodome, le jugement de l'Éternel, pardon, à Sodome, le jugement de l'Éternel tombe sur tous les hommes, toute la ville, et il va laisser la vie à un seul homme, Lot, et sa famille. À Golgotha, le jugement, il tombe sur un seul homme pour donner la vie à tous les autres. C'est ça la différence. À Sodome, le péché tombe, enfin le jugement tombe sur tous les hommes pour une seule vie. Et à Golgotha, c'est une seule vie qui est donnée pour le salut de tous les hommes. Regardez avec moi Jean chapitre 3, versets 35 à 36. Jean chapitre 3, versets 35 à 36. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Alors, c'est difficile d'affirmer, j'ai dit qu'on voyait bien la Trinité, mais l'essentiel, c'est de voir la main de Dieu sur l'histoire, sa justice à Sodome, mais aussi sa grâce à Golgotha. Un fils donné, et ce n'est pas un ange qui est donné, hein, c'est bien un fils, c'est bien Dieu lui-même qui se donne pour le péché de tous. Dieu aurait pu donner un ange, hein. Il aurait pu faire don d'un ange, ça lui aurait coûté beaucoup moins, mais il a voulu donner son fils, et le fils l'a accepté. Alors, on verra peut-être dans les prochains dimanches aussi le rôle des anges lors de la venue de Christ. Ils sont très importants aussi dans l'annonce de sa venue, son ministère et son départ ensuite, mais ça fera peut-être l'objet d'un autre message. En tout cas, quand on voit ça, on se dit, Dieu a visité les hommes en Jésus-Christ, mais aussi lors de la rencontre avec Abraham. Est-ce que vous n'aimeriez pas ce matin que Dieu apparaisse là avec deux anges, une grande visite ? Ce serait chouette, hein ? Ce serait bien, hein ? Ce serait content, hein ? Là, trois personnes qui arrivent, l'Éternel avec deux anges, waouh ! Qu'est-ce qu'on aurait comme attitude ? Et pourtant, que dit la parole ? Là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, Dieu dit, je serai au milieu d'eux. Donc, Christ est là, mes amis. C'est Dieu, ça, il y a sa présence dans notre assemblée ce matin. Alors, comment on l'accueille, Dieu, s'il est là ce matin ? Est-ce qu'on est comme Abraham ? Abraham, c'est quoi ? Regardez, on voit bien ces traits de caractéristiques. Abraham, c'est un homme de foi, déjà. Abraham, c'est un nomade, et l'Éternel lui dit, je vais te donner une patrie. C'est-à-dire qu'il est nomade, il n'a pas de patrie par définition. Dieu lui dit, je vais te donner une patrie. Et Abraham l'a cru. Sa femme est stérile, que lui dit Dieu, je vais te donner une descendance. Et en plus, quand ici il le confirme, ils ont à peu près 90 ans. Hein. Donc il fallait quand même avoir beaucoup de foi pour y croire. Et on comprend Sarah qui arrive, parce que je pense qu'on aurait eu la même attitude. Sarah, Abraham, comment il accueille les étrangers ? Comment il accueille l'Éternel ? Il est généreux, hein ? Déjà, il se prosterne, il se met vraiment en quatre pour lui. Un veau pour trois. On est dans le désert, il n'y a pas beaucoup de viande, ça ne se conserve pas. Il tue un veau pour trois personnes. Chez les Lamirons, on mange un poulet à quatre. Chez vous aussi, certainement. Là, c'est un veau à trois. Vous savez ce que c'est un veau ? C'est haut comme ça. C'est comme ça, ça doit peser 300 kilos à peu près. Un poulet, on le mange à 4. Hein. Donc Abraham, il est généreux. Et en plus, il donne du lait caillé, il donne plein de choses. Il est très généreux avec le Seigneur. Andou l'a dit tout à l'heure dans nos dîmes, etc. Voilà. Soyons généreux avec le Seigneur, c'est pour lui aussi. Hein. Et puis du coup, bah, voilà, il a une relation directe avec Dieu. Je n'ai pas détaillé ce point-là, mais l'échange qu'il aura ensuite, vous relirez si vous le souhaitez, chapitre 18. Il y a un échange entre Dieu et Abraham, il y a une vraie relation entre les deux. Il échange avec lui, il y a vraiment une relation très très proche. Même si on sent qu'Abraham, il est sur la retenue, il n'ose pas trop parce qu'il dit « Ah, j'ai parlé au Seigneur !»« Ouh là là, j'ai parlé au Seigneur, je vais parler encore une fois !» Il a peur, alors que le Seigneur dit « La porte des cieux est ouverte aujourd'hui. » Le Seigneur attend qu'on lui parle, qu'on le prie. Alors soyons comme Abraham, de foi, sachons accueillir les étrangers, les visiteurs hein, qui nous visitent aussi. Soyons généreux dans nos offrandes, et puis voilà, cela nous conduira, je l'espère, à une relation directe avec Dieu comme lui. Et je souhaite qu'un jour, l'Éternel aussi vous visite avec des anges, peut-être. Voilà. On va prier à présent. Seigneur, merci pour ce que tu nous dis dans ta Bible, tes révélations, Seigneur, sur les anges, êtres célestes que tu as créés, avec une mission divine, Seigneur, à ton service, en faveur de ceux qui hériteront du salut, Seigneur. Et je prie que chacun aujourd'hui ait reçu ce salut, Seigneur. Ce salut acquis sur la croix à Golgotha, par le sacrifice de ton Fils. Seigneur, il a donné sa vie, une fois, une vie, pour sauver tous les hommes de la mort. Golgotha. À Sodome, c'était que des morts pour une seule vie. Et là, c'est une seule vie pour sauver les autres. Sois béni, Seigneur, pour cela. Fais que nous soyons aussi comme Abraham, Seigneur, qui était un homme de foi, qui était généreux, Seigneur, qui savait accueillir les autres, et Seigneur, qui avait cette relation directe avec toi. Que nous ayons cette relation, Seigneur, tu le veux. Tu as dit à présent que la porte des cieux était ouverte pour que nous puissions parler avec toi et avoir cette relation, Seigneur. Il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes à présent, Jésus-Christ. Sois béni pour cela, Seigneur. Merci encore pour ces merveilles, pour les anges, Seigneur, que nous aurons le plaisir et la curiosité de découvrir encore plus en profondeur dans les prochains dimanches. Que tu nous parles et nous exhortes et nous enseignes, Seigneur, toi-même, en Jésus-Christ. Amen. Amen.